Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, selon des études sérieuses, sur le territoire du SCOTAM, les surfaces agricoles et naturelles ont régressé de 12 000 hectares, soit 7,2% entre 1947 et 2010. Alors, ce qui est très
C'est quoi
intéressant, c'est de voir que c'est une sorte de reconquête de la nature, puisque maintenant, on apprend de façon officielle qu'il faut pratiquer l'agroforesterie. Alors, c'est aussi très important que quand les maires, notamment des communes qui ont à défendre un paysage naturel, qu'il soit agricole, qu'il soit avec un cours d'eau, et en tout cas défendre un terroir et le patrimoine et surtout le paysage naturel, eh bien c'est surtout maintenant que sur eux, entre leurs mains que repose la véritable défense de la terre. Or, quand on est à la ville, eh bien malheureusement, le paysage urbain serait aussi à défendre. Mais quand on introduit dans le paysage urbain une absence totale de verdure, de végétation, et qu'on a des projets urbains qui sont visibles maintenant, sans qu'il y ait eu conception d'un espace de verdure, qu'il y ait eu des problèmes même de se rendre compte que les façades sont trop proches d'alignements d'arbres, et qu'après qu'on se dit, bah tiens, il faut couper des arbres, ça cache, c'est devant des fenêtres. Quand il n'y a pas de projection durable et à long terme, on se rend compte qu'il faudrait peut-être revisiter les grands urbanistes du XIXe siècle, qui pensaient la ville saine, ensoleillée. Et malheureusement, eh bien, le saccage continue, puisque selon les cinq causes qui sont dues notamment au réchauffement climatique, eh bien, une des premières identifiées, c'est bien le fait de la destruction fragmentée des milieux naturels, liés notamment à l'urbanisation et au développement des infrastructures de transport. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait tout de même remettre en harmonie, c'est qu'il y ait vraiment des projets urbains qui réintroduisent la verdure en ville. Quelqu'un qui est urbain a le droit aussi d'avoir sa petite pelouse, a le droit aussi d'avoir dans les habitations modernes ce coin de verdure, parce qu'il ne s'agit pas de faire la concentration en étages. Des concentrations de quartiers qui poussent de terre en même pas 3-4 mois, pour avoir cette notion, alors qu'on est en plein dans le sujet, d'urgence climatique, de concevoir une ville qui se reconstruit sans verdure. Et autre chose aussi, le point de vue d'avoir détruit quelque chose qui se construit de façon lente, durable, pour des siècles, par rapport à quelque chose qui parfois est douteux au niveau d'avoir poussé très clairement en une nuit, en un projet, et qu'après on doive rediscuter dessus. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur Lui, ensuite Madame Collin-Austerlé.
Monsieur le Président, chers collègues, une intervention rapide en continuité avec ce que j'ai pu dire au premier point. Pour regretter une absence ou un oubli sur un point qui relève à la fois de l'habitat, développé page 26, et de l'attractivité, page 32, c'est celui du logement étudiant. J'ai déjà évoqué devant notre assemblée la pénurie de logements étudiants à Metz, un sujet qui est à la fois une question d'attractivité pour les étudiants, et j'aurais pu l'évoquer au point 1 et au point 3 sur le projet de territoire. Mais c'est aussi une question sociale, car les logements étudiants à des tarifs très sociaux contribuent à l'accès à l'enseignement supérieur d'étudiants de milieux populaires. Et puis une question de développement durable au sens premier du terme, car la disponibilité de logements étudiants permettrait d'éviter de nombreux déplacements quotidiens en voiture d'étudiants de Moselle-Est, par exemple. Je souhaiterais qu'à l'avenir, ce sujet soit intégré dans les futurs rapports de développement durable, voire dans celui-ci, si c'est encore possible, avec des chiffres montrant l'évolution de la question sur plusieurs années. Cette question des indicateurs dans le temps étant par ailleurs un léger point faible du rapport, mais ce n'était pas le point important de mon intervention. Mon souhait, c'est que cette question du développement du logement étudiant soit intégrée. Et si on fait le parallèle avec ce qui a été dit au premier point, on a rejoint la base 100 de 2001 en nombre d'étudiants, mais en logement étudiant, on est à peu près pareil, on n'en a pas plus. Et je pense que c'est un des points pénalisants de notre développement d'enseignement supérieur. Merci.
Merci Bernard. Madame Collin-Austerlé.
Oui, très, très rapidement, je m'étais déjà exprimée l'année dernière par rapport à la construction de logements neufs et sur la vacance de logements qui continue à être inquiétante. On a 12,8% de logements vacants, 10% à Metz Métropole, 12,8% à Metz, hein, et 10% à Metz Métropole. Donc c'est supérieur à la moyenne départementale et à la moyenne nationale. Et la construction de logements neufs évolue deux fois plus vite que le nombre d'habitants. Donc c'est quand même un vrai souci à Metz en particulier. Et c'est pour cela, je crois, qu'il est urgent de faire de la réhabilitation de l'ancienne priorité et d'aller bien au-delà des 250 logements prévus par an afin d'enrayer cette vacance et de redynamiser les secteurs délaissés. D'autant que si j'en crois vos chiffres, seulement 106 logements du parc privé ont été réhabilités en 2017 et 130 en 2018. Cela me paraît vraiment insuffisant pour lutter contre cette vacance. Et je dirais un petit mot également sur la qualité énergétique, effectivement, des nouvelles constructions. Moi, je regrette, comme mon collègue Emmanuel Lebeau, qu'il n'y ait pas d'anticipation dans la mise en œuvre de la réglementation thermique 2020 et le concept de bâtiment à énergie positive qui s'imposera aux constructeurs dès 2020. On le sait, le bâtiment est un secteur clé pour lutter contre le réchauffement climatique. Il représente 43% des consommations énergétiques nationales et près de 25% des émissions de CO2. Il y a donc là un enjeu majeur et je m'étonnais déjà l'an dernier que cette exigence ne fasse pas partie du cahier des charges pour la construction du nouveau siège de Metz Métropole de Centralia. Enfin, je ne peux m'empêcher de revenir sur les déclarations de M. Darbois, déclaration dans la presse au sujet de la ZAC des Coteaux de la Seille, lequel déclarait que 40 hectares avaient été saccagés et que nous étions loin d'écoquartiers tels qu'ils avaient été imaginés. Alors, nombreux sont ceux, Monsieur le Président, qui lui donnent plutôt raison aujourd'hui. Et il y a fort à parier que tous ceux qui n'ont rien fait depuis qu'ils sont en responsabilité, ou même qui ont cautionné ce saccage, ne vont cesser de parler de développement durable lors de la campagne pour les prochaines élections municipales auxquelles ils vont, sans aucun doute, se présenter. Je vous remercie.
Merci, Madame Molinet.
Monsieur le Président, chers collègues, voilà, je voudrais juste faire une rectification sur l'étude Sésame. Il est indiqué qu'elle va se terminer en mai 2019. En réalité, la date de fin de l'étude était à 2 ans. Nous avons signé la convention en octobre 2017. Donc, en fait, ce sera en octobre 2019 cette étude sera terminée. Je dois dire que le CEREMA a fait un travail énorme, qu'il a déjà dépassé le nombre d'heures qui était prévu et que nous avons présenté donc avec le CEREMA cette étude à Lyon dans un séminaire sur les risques environnementaux et technologiques et que ça a suscité un énorme intérêt parmi les personnes présentes qui venaient de toute la France. Alors, cette étude... il est prévu de l'élargir, de la continuer l'année prochaine. C'est une demande de la part du CEREMA et de la ville de Metz. Et je regrette qu'il n'y ait pas un engagement de la part de la métropole à ce sujet. Je pense que là, justement, ça n'est pas une question d'élection et on ne peut pas me répondre que ça dépendra des élections. Voilà. Donc, et par ailleurs, je ne pense pas que 5 000 euros sur un budget, ce soit tout à fait impossible à sortir. Voilà. Donc, pour le financement de cet élargissement, je pense que c'est très important parce que ça permettrait d'élargir considérablement la palette des essences étudiées et cela permettrait d'inclure d'autres services écosystémiques qui sont très intéressants. J'ai un regret également concernant la renaturation du ruisseau de Vallière et la prévention des inondations. Je vous ai écrit un courrier à ce sujet, donc Monsieur Ball. Je souhaite vraiment qu'il y ait une étude de biodiversité qui soit faite en même temps, qu'il y ait une transversalité dans le traitement de ce ruisseau, comme nous l'avons fait pour la Seille. Pour la Seille, nous avions déjà une étude de biodiversité sur laquelle nous pouvions nous appuyer. Et ça permettra de connaître éventuellement des espèces à préserver tout au long de ce ruisseau et des espaces qu'il faudrait protéger. Voilà. Je voudrais aussi me faire l'écho de Metz Marche pour le Climat. Vous avez tous reçu cet email. Je pense qu'il faut répondre à l'inquiétude des gens, qu'il faut effectivement, peut-être de manière plus précise, pouvoir indiquer des données chiffrées. Et je me réjouis du fait que vous allez les rencontrer. Donc, je compte sur vous, Monsieur Boulle, pour répondre à cette inquiétude. Voilà. Et concernant peut-être tous ces aspects de renaturation des villes, de préservation de la biodiversité, je souhaite indiquer que il faut absolument se diriger vers un coefficient de biotope. Et que ce coefficient de biotope soit en pleine terre pour qu'on puisse y planter des arbres et pas que des petites choses décoratives et que ça ait une vraie fonction. Et que je vous souhaitais préciser que le CESE, le Comité économique, social et environnemental, a souhaité que les métropoles, dans tous les espaces où c'est possible, en tout cas il y a des espaces où ça n'est pas possible bien évidemment, mais partout où c'est possible, on fixe un coefficient de 30% d'indice de biotope en pleine terre. Voilà, je vous remercie.
Merci madame. Et puis enfin, donc Guy Berger pour répondre aux interrogations qui ont été formulées.
Je conseillerais à monsieur Lebeau de faire du cinéma, parce que en tant que réalisateur, il est très doué. Puisque avec un bâtiment, il réussit à cacher toute la politique de Metz Métropole dans le domaine du développement durable. C'est assez habile. Il a été fait référence à l'étude Arbre en ville, à l'étude Sésame sur l'arbre en ville. Alors, je rappellerai un peu ce que c'est que cette étude-là. C'est effectivement d'analyser un certain nombre d'espèces par rapport à ce qu'elles peuvent apporter en termes d'amélioration de la qualité de l'air, en termes de... lutte contre les îlots de chaleur, contre la préservation de l'eau, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, le but de cette étude, c'est de pouvoir livrer aux différentes communes, aux décideurs des différentes communes, un outil d'analyse et d'aide à la décision en fonction de ce qui est recherché. Si je veux assécher un terrain, eh bien, cet arbre-là sera un peu plus important qu'un autre. Si je veux rendre... agréable en été une place, cet arbre ou cette espèce-là sera un peu plus... Voilà. Donc c'est bien ce travail-là, et ça répond en partie à la préoccupation de Mme Thomas sur comment améliorer la situation dans des zones urbaines. La durée de cette étude est relativement longue, mais avant d'aller plus loin, il faudrait qu'on termine cette première étape et voir comment on peut aller à l'étape suivante. C'est de cette manière-là que je travaille. Je travaille de manière assez pragmatique. Sur les problèmes de logement, alors je rappellerai que le document relate les politiques menées par la métropole. Toutes les politiques ne sont pas de son ressort. Sur la réhabilitation du parc ancien. Alors effectivement, c'est un des très gros enjeux de la transition écologique aujourd'hui. Sauf que personne n'a trouvé la clé sur l'équilibre budgétaire de ce type d'opération. Il y a des recherches qui sont faites. Lors des assises de la transition énergétique à Dunkerque à la fin du mois dernier, François Drugy est intervenu en disant que la taxe carbone aurait pu permettre d'affecter 1 milliard vis-à-vis des collectivités pour pouvoir agir dans ces domaines-là. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Tant qu'il n'y aura pas un effort conséquent qui sera fait ou qu'il y ait une modification de la législation, il sera difficile, malgré tous les efforts qui ont été faits. Je vous rappelle que avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, il y avait une plateforme de rénovation énergétique qui vient d'être arrêtée parce que il n'y a plus de financement et les résultats n'étaient peut-être pas suffisants non plus. Voilà, donc c'est un véritable enjeu, mais à moins d'injecter beaucoup d'argent de la part de la métropole, et encore une fois, on est souvent sur du parc privé et c'est certainement plus délicat. Voilà, donc... effectivement, tout n'est pas fait, il y a encore des choses à faire. Sur le souhait d'avoir des chiffres, je rappellerai quand même que la métropole a fait l'effort de choisir la plus difficile des démarches de validation en se lançant dans un système d'audit à l'échelle européenne. c'est le procès, c'est Sitergie.
Sitergie.
Ça,
il y a quatrième voilà. Des métropoles voilà. De France.
Troisième. On n'a pas été dépassé depuis. Voilà. Troisième. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Alors, bien sûr, on voudrait avoir des chiffres sur tout. On est capable de tout mesurer, de tout chiffrer. Alors, pour l'instant, notre équipe n'est pas très étoffée. Donc, je préfère qu'elle se consacre à des actions concrètes qui ont des rejaillissements. Et la preuve en est là. Merci.
Voilà. Nous y serons avec la maison des ateliers de Jean-Marie. D'aller dans ce sens-là avec des communes comme Montigny, par exemple. Voilà, merci en tout cas pour ces remarques. Est-ce qu'il y a des... Ben non, je crois qu'il s'agit de prendre acte, donc il n'y a pas de vote. Hein. Merci.